Daniel Bélanger, je poursuis mon bonheur.
Oui, pour faire un lien avec la série documentaire Bonheur intérieur brut, réalisée par Hugo Latulippe, qui prendra l'affiche, si je puis dire, à TV5 dès demain, les mardis à 20h, et puis aussi sur TV5 Uni. Bonjour Hugo Latulippe.
Bonjour, comment ça va?
Ça va bien. Vous, êtes-vous heureux?
On travaille là-dessus.
Oui, on travaille là-dessus. Bonheur intérieur brut, pourquoi ce titre?
Alors, bonheur intérieur brut, ça réfère, hein, c'est BIB, ça réfère au PIB. Mm-hmm. C'est une idée du Bhoutan qui date de 1972, qui a été développée par les Nations Unies. Depuis, il y a eu 4 ou 5 grands sommets internationaux des Nations Unies sur le bonheur intérieur brut. Puis l'idée, en fait, c'est d'élargir notre conception, notre définition de la richesse. Donc, nous, on s'inscrit dans notre base scientifique de travail, là, c'est le rapport annuel sur le bonheur qui est produit par des économistes chaque année à la demande des Nations Unies. Puis on est parti de ça, nous, pour construire notre série.
Est-ce que les Bhoutanais, vous les connaissiez avant d'amorcer votre série?
Bien, moi, j'ai beaucoup été au Tibet dans ma vie. Donc, les bouddhistes bhoutanais et les bouddhistes tibétains se connaissent et se ressemblent au niveau de la philosophie de vie, si on veut. Mais je ne connais pas le Bhoutan là, spécifiquement.
Et comment se déploie votre projet BIB? Qu'est-ce qu'on y voit? Qu'est-ce qu'on y apprend?
En fait, nous, on a essayé d'incarner cette recherche donc d'économistes des quatre coins du monde qui... tente de définir le bonheur autrement qu'avec l'argent ou les revenus d'un État, d'un pays. Puis donc, ils ont diversifié les variables. Ils ont identifié que la santé de l'esprit, la santé du corps, l'accès à l'éducation, l'accès à la nature sauvage sont des facteurs de richesse, de bonheur. Puis que finalement, l'argent n'est pas la première variable pour trouver les peuples les plus heureux.
L'argent ne fait pas le bonheur.
Non, ça en fait partie. Évidemment, on ne peut pas évacuer le fait qu'on doit manger, se nourrir, etc. Puis d'ailleurs, notre série, puisqu'elle a été tournée beaucoup pendant la pandémie, la beauté de cette contrainte-là, c'est qu'on a dû comparer des oranges avec des oranges. Donc, on va beaucoup dans des États qui ressemblent au Québec, au Canada. On va dans les États scandinaves, en Corée, plusieurs pays européens. Donc, on compare des sociétés qui ressemblent à la nôtre, finalement.
Mm-hmm. Et d'ailleurs, quand vous êtes à Copenhague, vous allez visiter l'Institut du bonheur et on apprend que le Québec est bien classé en matière de bonheur. Est-ce que ça vous a étonné, Hugo?
On est dans le peloton de tête, là, oui, effectivement. On dit que le Canada, bonheur mal an, se classe à peu près 15e au monde, puis le Québec, un petit peu mieux. Autour de 10-11, ça ne m'étonne pas parce que, bon, je connais ma chance, je connais notre chance. On est né dans la crème chantilly du monde, comme je dis souvent. mais il y a des États qui font beaucoup mieux que nous sur certains aspects. La Finlande et le Danemark, par exemple, figurent toujours en première ou deuxième position de ce classement-là. Et puis, ça se maintient là, au fil des ans. Ça fait une quinzaine d'années, je pense, que ces deux États-là se chicanent la première place.
Vous rencontrez d'ailleurs Jacob, je ne me souviens plus de son nom de famille, là, qui est président de l'entreprise Ørsted. Est-ce que vous voulez nous en parler un peu de cette entreprise?
Ben oui, Ørsted, c'est un peu notre Hydro-Québec, c'est l'équivalent danois d'Hydro-Québec. C'est une société qui appartient en majorité aux Danois. En fait, je pense que cette année, ça a basculé, la majorité est tombée dans le privé, mais en tout cas, ça ressemble un peu à notre société d'État. Ils étaient, il y a 10 ans, à 100% dans le charbon. Donc, le Danemark trouvait son énergie dans le charbon. Puis, ils ont décidé, comme société, comme peuple, que ça n'avait plus de bon sens à l'ère des changements climatiques. Fait qu'en 10 ans, ils ont effectué un retournement complet. Maintenant, en 2025, on dit que Ørsted va être zéro émission. Donc, ils se sont tournés vers l'éolien. Comme quoi, une grande compagnie, c'est probablement la plus grande compagnie au monde de l'éolien aujourd'hui, peut se revirer sur un dissous, comme on dit. Ça fait la preuve, quelque part, que notre modèle, le modèle de notre économie néolibérale capitaliste, est peut-être pas là pour toujours.
Le modèle qu'il faut suivre jusqu'à la fin des temps. Et d'où vient votre appétit de trouver du sens à la vie, Hugo Latulippe?
Ah ben, ça vient de ma condition de vivant.
Oui.
Je pense qu'on est tous en quête de bonheur, puis quelque part, il y a notre bonheur individuel qui est important, qui nous intéresse personnellement, évidemment, mais moi, comme j'ai dit à TV5 au départ, quand ils m'ont proposé de faire cette série-là, je leur ai dit, ben mon bonheur n'est pas intéressant pour le grand public. Moi, ce qui m'intéresserait de faire, ce serait une série sur notre bonheur collectif. Fait que c'est ce qu'on a fait. Moi, je me prête à quelques exercices là, sur moi. Par exemple, je me mets à la méditation là, tout au long de la série. Je suis suivi par une professeure, puis je me prête à l'exercice d'analyser mon cerveau là, avec des neurologues.
Est-ce que c'est une première pour vous de vous prêter à la méditation?
En fait, j'en ai toujours un peu fait là, depuis quelques années, mais là, j'ai fait l'exercice de vraiment m'y prêter, de m'astreindre à une éthique quotidienne, puis ça a porté fruit, c'est ça, sans vouloir dévoiler les punchs de la série, là. Il semble que en mettant mon cerveau dans un électrocardiogramme, ou je pense que c'est ça le nom, on a vu que il y a des impacts sur mon cerveau. Il se passe quelque chose.
Bien, et quelque chose de bien, quelque chose de positif.
Ben, il semble, oui, c'est assez éloquent là, ce qu'on voit, mais ce que nous apprend Stephen Lorries, qui est le neurologue de renommée internationale là, qui est dans notre série. Lui qui travaille sur le cerveau de Mathieu Ricard depuis une vingtaine d'années, dit que la science a démontré que le cerveau d'un Mathieu Ricard qui pratique une méditation de la bienveillance aurait 15 ans de plus jeune que son corps.
Ah oui.
Donc c'est assez phénoménal comme découverte là, puis c'est pas des poètes qui le disent maintenant, c'est des neurologues. Il semble que par exemple je veux pas faire de un scientifique de moi, j'en suis pas un, là, mais que ce qu'ils appellent les couloirs neurologiques, là, où circulent nos neurones, sont plus robustes dans le cerveau de Mathieu Ricard, par exemple.
Alors, ça donne l'envie de méditer à notre tour, si ce n'est déjà fait. Mathieu Ricard, qui fait partie de la série, je me demandais la rencontre la plus marquante que vous ayez faite durant le tournage de votre série.
Ah ben, je dirais que dès le départ, notre projet, parce que on a parlé du Bhoutan, mais aujourd'hui, il y a des États qui mettent en œuvre ce qu'ils appellent le well-being budget, à commencer par la Nouvelle-Zélande, la Finlande, l'Islande et l'Écosse, tous dirigés par des femmes, il faut le dire, au moment du tournage. Ben, ces femmes-là, elles étaient dans notre mire, on voulait en rencontrer une ou deux. Puis ma rencontre avec la première ministre de l'Islande, Katrín Jakobsdóttir, je dirais, je m'en suis pas remis encore.
Là. Ah non.
Ça m'a beaucoup, beaucoup inspiré. J'étais surpris à quel point une personne éclairée comme elle l'est peut diriger un État. Ça m'a fait rêver, disons.
Avez-vous espoir que ça se passe un jour, qu'on atteigne une sorte d'état de bonheur, qu'on change de modèle?
Ben oui, parce que justement, c'était ça l'idée, c'était d'aller incarner cet espoir-là qu'on a dans des histoires qui existent pour vrai. Puis celle de l'Islande là, qui caracole aussi au sommet du rapport annuel sur le bonheur, ils sont toujours troisième ou quatrième. Par exemple, au niveau de l'égalité entre les hommes et les femmes dans cette société-là, ils sont bien plus avancés que nous. Hein, on dit souvent que le Québec est très bon en cette matière-là, mais il y a des pays qui font mieux que nous. Puis l'idée pour moi, c'était d'aller chercher les meilleurs plats à l'extérieur de chez nous, puis de les ramener ici. C'est un peu ça le projet de cette série-là.
Mm-hmm. J'ai regardé, moi, La Richesse et aussi La Moisson où vous dégustez de la nourriture faite, préparée par Colombe Saint-Pierre, et vous dites, sérieux, c'est à brailler, là, on est jaloux.
Oui, c'est ma chance, c'est la chance que j'ai de faire ce métier-là. J'ai été en mer sur le bateau de Renaud Sanduguet, Emmanuel Sanduguet, pardon, c'est son fils, au large de Rimouski avec Colombe. Puis ils ont mis sur pied ensemble une pêche là, de Bourgo, mm-hmm. Une nouvelle pêche. Puis bon, je goûte avec eux sur le pont du bateau, c'est ma grande chance. C'est là où je fais un Christian Végin de moi.
Oui, c'est vrai. Alors, parce que Colombe Saint-Pierre aussi, c'est une femme qui croit peut-être à un autre modèle. Pour elle, elle dit se nourrir avec ce que nous offre notre territoire, c'est ce qu'elle prêche depuis longtemps.
Oui, ben c'est ça. Les gens pourraient se demander qu'est-ce qu'il fait sur un bateau de pêche ou dans un restaurant à parler du bonheur. Ben moi, je pense que tu sais, on mange tous les jours. Puis l'idée de je trouve que le monde agricole, le monde de la restauration permet d'aborder certains enjeux. Je pense ça depuis longtemps, notamment de notre cohérence, des gestes qu'on pose tous les jours, comme se nourrir. Quand on est nourri par des gens qui vivent dans notre village, dans notre région, qu'on les connaît, qu'on les fréquente, qu'on sait qu'ils détruisent pas le monde comme l'agriculture industrielle peut le faire, ben ça contribue à notre bonheur parce que ça donne sens à ce geste-là de manger tous les jours. Et moi, je pense ça, je pense que si on me laissait faire, je ferais seulement des films sur l'agriculture dans la vie parce que je trouve que c'est une métaphore de notre monde, de notre système, moi aussi. Puis en plus, j'aime ces gens-là. J'aime ces gens-là d'amour. Colomb, à commencer par Colomb.
Auriez-vous aimé être un agriculteur?
J'en suis un tout petit.
Ah oui?
Mais j'ai un grand jardin. J'ai toujours eu un grand jardin. Mais là, plus que jamais, j'habite le Bas-Saint-Laurent.
Oui.
On a des abeilles, puis on produit une partie de notre bouffe, bien
Hmm.
sûr. On est des amateurs. Il y a une chance qu'on a nos amis agriculteurs partout autour de chez nous, là, dans le bas du fleuve et dans notre village à Cacouna. Il y a heureusement de plus en plus de jeunes gens, je dirais, là, tu sais, qui font l'agriculture de manière écologique et respectueuse. Puis on essaie de favoriser cette économie-là.
Est-ce que vous allez... J'espère qu'il y a d'autres personnes, parce que je regarde la série, puis je me dis, j'espère que vous n'allez pas atteindre que des personnes qui sont d'accord avec vous. Vous parlez à un moment donné du rapport au temps à changer, les horaires, les agendas, les calendriers. Comment on arrive à joindre les personnes qui sont prises dans une sorte de tourbillon et qui ne se posent pas nécessairement de questions et qui ne sont pas intéressées par vos propos?
Ben, on est tous un peu pris dans ce système-là, puis c'est pas facile d'en sortir, de s'inscrire en faux. Mais je pense que le chemin vers une cohérence, vers un lien entre ce qu'on sait puis ce qu'on fait dans le monde puis dans nos vies, tout le monde cherche ça. Puis c'est un peu l'idée aussi pour moi d'aller voir, par exemple, des économistes à la London School of Economics, qu'on pourrait dire ces gens-là sont à l'opposé de ce que je pense. Ben non, il y a un de ces profs-là qui s'appelle Sir Richard Layard, là, qui est à l'origine du rapport annuel sur le bonheur et qui était incidemment le conseiller principal de Tony Blair pendant des années en Angleterre. Donc, c'est pas, on va voir des gens qui ne sont pas que des originaux comme moi, mais comme j'aime bien dire, des gens bien plus sérieux que moi.
Et est-ce que c'est une série qui offre une sorte de recette pour accéder au bonheur, diriez-vous, Hugo?
Ben, je ne sais pas si c'est une recette, je ne sais pas surtout si elle est complète, mais en tout cas, c'est les morceaux d'un puzzle pour se rapprocher d'une forme de bonheur. Puis, tu sais, je pense que chacun des personnages de la série le dirait comme ça, en toute modestie, c'est que ils incarnent un monde en marche vers une possible durabilité, parce que on sait que le système dans lequel on est, on le sait maintenant avec notre tête, qu'il y a un potentiel de nous détruire. Ben, ces gens-là ont changé, ont tenté de changer leur vie, tentent de changer le modèle aussi dans lequel on est pour s'inscrire dans une durée, parce que moi, j'aimerais bien que le monde soit toujours vivable pour mes enfants et ceux qui vont me suivre.
C'est sûr. Vous posez la question du bonheur à plusieurs personnes. Il y en a une dont le nom m'échappe, qui dit que sa définition du bonheur vient d'une citation de Marc Aurèle.
Oui, c'est le fondateur de l'Institut sur le bonheur à Copenhague,
Oui.
Mike Viking, qui est assez connu.
Et qui dit que la richesse ne vient pas d'une abondance de biens,
Oui,
mais d'une absence de besoins.
de besoin. Puis ça rejoint un peu ce que Saint-Augustin a dit aussi, une phrase de Saint-Augustin que je trouve magnifique, qui dit, ben au fond, le bonheur, c'est de reconnaître qu'on l'a déjà. Puis alors, je retourne ça vers moi en disant, ben je reconnais que je suis né dans un des contextes, un des pays les plus chanceux du monde. Ça, je le vois. Je suis capable de le voir. Moi, j'habite un petit village sur les bords du Saint-Laurent. Je me trouve bien chanceux. Mais je pense que notre devoir, c'est tout de même de répartir ce bonheur-là équitablement dans notre pays, puis sur Terre. Ça fait que ça s'arrête pas là. On a beau être chanceux. Notre quête n'est pas finie.
Non. Et à chaque année, on se souhaite santé, bonheur, bonheur avec un grand B, mais comment on peut être heureux, plus heureux au quotidien?
Bien, je pense qu'il y a toutes sortes de pratiques maintenant qui font la preuve. On a parlé de la méditation tout à l'heure pour ce qui est de la santé de l'esprit, que il y a moyen de s'éloigner des nuisances au bonheur, j'ai envie de dire. Nos vies devant des écrans, par exemple, ben de plus en plus, on sait que c'est pas une bonne idée. De plus en plus, on nous dit, ben faites aller dehors, jouer dehors, faites de l'exercice physique. Encore là, on incarne ça dans la série avec des gens qui vivent dehors. Puis un médecin, par exemple, Jean Désy, qui travaille avec les Nations autochtones du Québec depuis longtemps, qui dit, ben moi, j'observe que chez ces gens qui vivent dehors, il y a une plus grande résilience, une capacité de gérer mieux les difficultés, puis particulièrement les maladies dans la vie, parce que ils ont, par observation, ils savent que la vie a une fin, puis ça fait partie de leur quotidien d'y penser à cette fin-là, de l'envisager, puis de ne pas trop la dramatiser.
La série documentaire compte 10 épisodes. Est-ce qu'il y aura une suite?
Ah ben, j'aurais envie de dire, la suite est dans nos vies à chacun.
Oui.
J'aimerais bien que cette série-là ait cette... Tu sais, on me demande souvent pourquoi je fais ce que je fais, puis c'est vrai que je mentirais si je disais pas que j'ai toujours l'espoir que ça contribue à nous transformer, à nous changer, autant individuellement que comme société. Fait que j'ai envie de dire ça, c'est ça la suite.
Et en attendant la suite qui dont on est responsable, il faut absolument découvrir ces 10 épisodes. Est-ce qu'il y en a un qui vous tient à cœur particulièrement, un épisode de préféré?
Ah, ben ça, c'est une question cruelle.
Ouais.
C'est difficile, c'est comme demander ça de nos enfants, mais je dirais que un petit clin d'œil, quand on a demandé à toute mon équipe formidable, musicien, monteur, productrice, etc., quel était le préféré de chacun? On a tous répondu à un épisode différent.
Ah, c'est bon signe?
Ben, je trouve que oui, puis c'est dire qu'il y en a pour tous. Si le premier épisode là, qui est diffusé mardi 30 janvier à 20h plaît pas à certains, peut-être que le prochain va le faire un peu plus.
Mais
je vous encourage à toutes l'écouter.
Ah oui, c'est sûr. Puis c'est tellement beau, les images. Vous avez été bien chanceux de voyager comme ça, dans des endroits absolument fabuleux. Alors, ne serait-ce que pour ça, ça nous apporte du bonheur.
Bien, c'est ça mon souhait, c'est de le partager. À cette époque de changement climatique, on se questionne sur la pertinence de nos déplacements, toujours. Puis c'est ça mon espoir, moi, c'est que ça serve d'autres que moi. Projet-là. Donc, c'est pour ça que je l'ai fait.
Bien, j'allais dire mission accomplie. Il y a beaucoup de générosité, beaucoup de cœur et j'ai regardé en tout cas au moins 2 épisodes, comme je vous le disais tantôt, avec beaucoup de bonheur, pour pas faire un jeu de mots, mais ça donne envie de découvrir toute la série. Je rappelle qu'elle est diffusée sur TV5 et sur TV5 Uni à partir de demain sur TV5 à compter de 20h. On va se laisser avec Le petit bonheur de Félix Leclerc. Je sais pas si ça vous dit quelque chose, cette chanson?
ça me fait plus que me dire quelque chose. C'est comme la maison, Félix.
Alors, allons-y donc avec Félix Leclerc. Merci, Hugo Latulippe.
Bonne journée.
À la prochaine.
Au revoir.